Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commenter tous ces extraits sur RMC de dernière 24 heures avec Rémi Barré, Perico Légas, Thierry Moreau et Fred Hermel. On va commencer avec un extrait des Grandes Gueules ce matin et on va revenir sur la polémique lancée par Elisabeth Borne dimanche dernier. Elle avait qualifié le RN d'héritier de Pétain, porteur d'une idéologie dangereuse sur Radio J. Hier, en Conseil des ministres, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a recadré Elisabeth Borne. Un recadrage tout à fait normal pour cet auditeur qui en a profité pour pousser un coup de gueule ce matin chez les GG.
Eh bien, moi, je trouve qu'il a eu raison. D'ailleurs, ça faisait un moment que je voulais vous avoir au téléphone afin de vous demander d'arrêter de nous traiter d'extrême droite. Moi, je suis juste électeur, je ne suis pas sympathisant, je n'ai pas ma carte, mais j'en ai ras-le-bol. Parce que, un petit message à Elina. Elle devrait aller voir le nombre de socialistes qu'il y avait sous le gouvernement de Pétain, avec Mitterrand en 81, Mitterrand qui est le pape des socialistes, qui a eu la franquiste. Et moi, je ne rappelle jamais tout ça. On est sans arrêt à répéter la même chose. Et moi, je suis fatigué. Moi, je me sens insulté quand on me traite d'extrême droite. Je me sens insulté parce qu'un parti d'extrême droite, c'est Zemmour. Zemmour, j'ai été très fier quand Marine Le Pen elle a dit qu'il ne serait pas Premier ministre et qu'il ne serait pas dans son gouvernement. Parce que moi, si c'était le cas, j'aurais pas voté pour elle au deuxième tour. Ça aurait été hors de question. Donc maintenant, il faut arrêter. Moi, je suis fatigué de tout ça.
Et Emmanuel Macron qui a assuré Elisabeth Borne de tout son soutien il y a quelques instants. Alors on sait qu'en football, par exemple, quand un président assure son entraîneur de tout son soutien, il est viré deux semaines plus tard. Perico Légas.
Comme l'accord soutient le pendu, vous connaissez la formule.
Exactement. Perico Légas, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de recadrer Elisabeth Borne en plein Conseil des ministres, sachant évidemment pertinemment que ça allait sortir dans la presse quelques heures plus tard?
Oui.
Ah bon?
Oui, parce qu'elle a commis une erreur politique.
Voilà,
elle a commis cette phrase-là, est une erreur politique majeure. C'est le genre de phrase qui fait que le Front National, moi j'utilise encore le mot Front National, Rassemblement National, grimpe, ça ne le freine pas, ça ne convainc pas les Français.
Bon, ça ne le fera pas grimper non plus.
Et voyez la réaction, le nombre de gens qui se sentent insultés. Voilà. Il y a eu, en 72, à la fondation du Front National, des gens qui avaient collaboré, qui avaient été même peut-être certains, à un moment donné, qui avaient pu être pro-nazis. Mais il y avait aussi beaucoup, j'ai cité, il y avait 45 anciens résistants, des gens déportés, qui ont eu de la libération.
Mais, sauf qu'entre 1942 et 1972, il y a 30 ans, et donc, durant ces 30 ans, il n'a pas échappé qu'il y a eu la guerre en Algérie. Et qu'un certain nombre de résistants ont vrillé vers l'extrême droite au moment de la guerre d'Algérie, ont rejoint l'OAS, etc.
Et comme la gauche elle-même a collaboré, et que les grands leaders de la collaboration, des Adoriaux, étaient socialistes et communistes, n'abordons pas ce sujet pour combattre le Rassemblement National. Allons sur. Il y a suffisamment d'éléments de polémique et de controverses avec ce parti politique pour qu'elle aille. Elle, première ministre de la République, elle est la première ministre de la République. Elle ne peut pas dire à 42% des Français, vous votez pour un parti qui a été pété ou qui est pétiniste. Ce n'est pas vrai.
C'est l'héritier de Pétain.
Eh bien, c'est pas vrai. Il y a un débat que je veux bien avoir. Et effectivement, il y a eu des collabos dans les fondateurs du Front National. Mais elle ne peut pas dire ça, le Premier ministre.
Et est-ce qu'Emmanuel Macron est obligé de l'humilier en Conseil des ministres, devant tout le monde?
Il est obligé de réparer la bourde majeure qu'elle a faite.
Mais attends, il peut l'appeler, non? Il n'a pas le téléphone, Emmanuel Macron.
Il est obligé de dire aux Français, ma première ministre a l'humilier.
Alors attends, non, il ne le dit pas aux Français. Non. Il le dit au Conseil des ministres en espérant que ce soit.
Non, mais il sait très bien que ça va être pris. C'est fait exprès.
Donc c'est hypocrite. Soit tu dis aux Français, ma première ministre a commis une erreur.
C'est un coup de vache qu'il lui a fait.
C'est un coup de vache.
Je pense qu'elle va partir d'elle-même. Je pense qu'avec deux, trois coups comme ça, elle va peut-être te dire j'ai plus ma place. C'est peut-être uniquement pour l'user.
Moi, j'ai été choqué par la méthode. Je suis tout à fait d'accord. C'est une erreur politique. Moi, si un jour je fais une bêtise dans cette émission, j'espère qu'Estelle, tu me diras après l'émission écoute, j'ai pas aimé ce que t'as fait, nanana.
En direct.
Je pense qu'elle
peut lire à l'antenne.
Je le dis aux Français.
Le nombre de fois, ouais.
Ce que je veux dire. Je trouve que c'est pas très élégant de la part du président.
Si je juge que tu dérapes, je le dis à l'antenne.
Mais là, enfin, je pense que c'est pas très bien.
Il l'a fait sciemment.
Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron le fait souvent.
Il l'a fait sciemment.
Il a humilié les gens qui travaillent pour lui. Il a pas à le faire devant tout le monde. Alors, moi, je pense qu'il faut. Voilà. Je termine ma phrase. Je pense que s'il avait quelque chose à faire, il aurait dû lui dire directement. Voilà. Après, et s'il veut lui la reprendre sur le sujet, qu'il en parle lors d'une prochaine interview.
Oui.
Puis comme les questions sont négociées avant, etc., il dit bah oui, j'aimerais bien revenir sur.
Là, il voudrait.
On va pas cacher les gens. Non, mais je veux dire, si le président dans sa prochaine interview dit j'aimerais aborder le thème du Rassemblement national, le journaliste va lui poser la question et il aura l'occasion d'exprimer.
Non, parce qu'il devrait être après à chaud l'erreur qu'elle a commise.
Exactement. Il l'a fait de façon subtile. On sait très bien.
Il a envoyé un communiqué.
On sait très bien que dans le Conseil des ministres, il y a des choses qui se disent et qui ne sortent pas. Si ça sort, c'est qu'on a voulu que ça sorte.
Bien sûr.
Donc le recadrage se fait de manière indirecte, ce qui est plutôt habile politiquement. Après, je rejoins de ce que dit Péricot, c'est une erreur politique majeure. Mmh. Effectivement, il y a probablement des pétinistes qui étaient là au moment de la création du Front National. Il y a probablement aujourd'hui, dans l'entourage et au Rassemblement National, quelques nostalgiques encore de cette période-là.
Évidemment.
Ça, c'est incontestable. Est-ce que 13 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National la dernière fois sont des fascistes ou des pétainistes? Non. La réponse est non, évidemment. Et on ne combat pas le Rassemblement National avec ces arguments-là.
On a essayé, ça donne rien.
On les combat pied à pied.
C'est comme le tabac.
Il y a plusieurs jours, il y avait un journaliste qui avait en face de lui, alors quelqu'un qui n'est pas du Rassemblement National, Éric Ciotti, mais qui donnait des contre-vérités sur l'immigration. Et pied à pied, argument par argument, le journaliste a démonté tout ce que disait le modèle danois, etc., etc. Eh bien, c'est comme ça qu'on luttera contre le Front National, le Rassemblement National.
Juste pour préciser, il y a certainement une maladresse politique, une erreur politique de la part de la Première ministre, mais je tiens à préciser, comme elle n'a pas dit aux électeurs, ceux qui votent pour le RN sont des, sont des pétainistes ou des fascistes, elle a dit que ce parti, on lui a posé la question, est-ce que ce parti, c'est sur Radio J, Radio de la communauté
c'est
juive.
Collègue Aziza qui lui a posé la question.
Est-ce que ce parti est héritier du pétainisme? Elle a dit oui. Est-ce que ce et elle a ajouté, ce parti, pour moi, est un parti dangereux.
Oui.
Voilà.
Je ne voyais pas dire non plus. C'était la question
est piégeuse.
Elle aurait pu dire c'est peut-être, mais elle a voulu répondre de façon, mais ensuite elle s'est enferrée et puis elle,
Extrait des GG ce matin. Faut-il aller plus loin en matière de sécurité routière? Après les 30 km/h, certaines mairies prennent des décisions encore plus dures afin d'obliger les automobilistes à ralentir. Exemple à Éperon, c'est dans le Calvados, où 10 panneaux stop ont été installés sur 200 mètres. Une installation inutile pour Kevin. Il est habitant de ce village et il témoignait ce matin chez les Grandes Gueules.
C'est une petite résidence, un petit quartier résidentiel très calme. Les gens passent, mais c'est la majorité des gens, ce sont des riverains. C'est absolument pas une route qui fait un détour ou qui va quelque part justement pour éviter les bouchons, bien au contraire. Et le truc, c'est que ces stops-là, en fait, sont pas du tout respectés, donc c'est encore plus dangereux qu'avant, parce que les gens ne comprennent pas trop comment faire. Parce que non seulement ce sont des stops installés, mais ce sont des stops temporaires en face-tête. Donc en fait, ce sont des marquages jaunes que les gens ne comprennent pas. Et en plus, ce sont pas des stops plantés dans le sol, ce sont des stops mis sur une petite butte en béton, enfin un petit truc en béton pour éviter que ça s'envole. Sauf que récemment, ils ont été volés ces stops-là, et donc du coup, il y a juste les marquages aujourd'hui. Et c'est dangereux.
Stop.
C'est une bonne initiative, c'est 10 stops sur 200 mètres. Est-ce qu'on est en train de faire n'importe quoi, Thierry Moreau?
Je pense qu'il y a certains maires qui sont démunis devant l'incivilité, les voitures qui roulent très très vite. Moi, dans mon village, devant chez moi, c'est limité à 30. Et il y a des voitures qui arrivent à toute vitesse, alors qu'il y a des enfants qui font le chemin entre l'arrêt de bus qui est au bout de la rue et le village qui est au centre. Donc, je pense que les maires sont un peu démunis. Je pense qu'ils... Pardon?
Non, rien.
C'est un problème de comportement. Je pense qu'il faut effectivement se battre contre... Effectivement, j'étais contre le 30 km/h partout dans toutes les villes, mais en revanche, il y a des endroits où ça doit être respecté. Eh ben, des flashs automatiques. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, dès que vous dépassez la limite, vous avez une verbalisation. Point barre.
Il faut arrêter les idées un peu foutraques, finalement, Frère Dermel.
Moi, j'aime quand les responsables politiques sont pragmatiques et pas dogmatiques. C'est-à-dire que, on sait très bien, par exemple, il y a des routes où c'est hyper dangereux, on prend des mesures, etc. Mais il faut que ça marche. Enfin, j'ai l'impression d'avoir découvert l'eau chaude, l'eau tiède plutôt. S'il y a un problème sur cette route, on fait ce qu'il faut.
Parce que par exemple, les ralentisseurs, ça fait quelquefois plus de bruit.
Ça c'est insupportable pour les gens qui habitent à côté.
Donc,
Il faut être pragmatique et pas dogmatique. Et j'ai l'impression que 10 stops, c'est du dogmatisme.
Péricot, vous qui êtes résident d'une toute petite ville, justement à la campagne.
Oui, en plus, je constate les excès de vitesse, je constate tous les efforts des municipalités. Je pense que nous arriverons un jour au sketch de Raymond DeVos. bosse avec le rond-point que des sens interdits. On rentre dans un rond-point, on pourra pas en sortir.
On tourne.
Voilà, et à ce moment-là, ça sera aussi une solution. Autant rendre là à ce moment-là.
Ça, c'est Paris, hein, ça s'appelle.
D'accord. Non, j'en ai dans ma région. Non, il y a quatre stops, j'en ai.
Bien sûr.
Quatre stops.
Absolument.
Il y en a de plus en, enfin, moi, j'en vois de plus en plus dans les villages, dans les Hauts-de-France, j'en vois de plus en plus.
C'est très compliqué.
La nouvelle mode, il y a eu la mode des
ronds-points.
Alors, il y a mieux.
Les ronds-points, et maintenant, c'est beaucoup de stops.
Le plus efficace, c'est l'écluse. C'est-à-dire du stationnement, vous voyez, en quinconce.
Ah, je croyais que vous vouliez mettre une écluse, histoire de faire tomber les voitures dans le... Oui,
d'accord. C'est dangereux.
L'écluse, c'est dangereux.
Ah bah oui. Pourquoi c'est dangereux?
Parce qu'on peut se noyer.
On roule vite.
Non, parce qu'on roule vite, justement, ouais. Ça crée des sacrés accidents. Bah ouais.
On n'a qu'à pas rouler vite.
Comment ça, tu peux pas, oui, c'est facile à dire.
Tu peux pas rouler vite avec l'écluse, parce que tu es obligé de faire un zigzag.
Nous allons terminer avec un extrait d'Apolline Matin, ce matin sur RMC. Et le retour d'un accessoire que l'on pensait terminé, totalement has-been. Mais cet accessoire, il était très populaire dans les années 80. Péricot, Thierry et Fred en ont forcément porté une, cet accessoire. C'est la banane et la sacoche banane. Et bien, sachez qu'elle fait son grand retour et Charles Manin nous explique pourquoi.
Je l'ai vu.
D'abord, l'histoire du sac banane, adopté dans les années 80 par les skieurs, puis les randonneurs. Bon, elle était clairement passée de mode.
Parce que c'est commode, hein.
Parce que c'est pratique.
Voilà.
Mais alors là, 2023, c'est pas seulement pratique, c'est la mode. Gucci, Prada, Louis Vuitton, toutes les maisons de haute couture ont sorti cette saison leur sac banane. Les stars s'affichent avec et les Français s'y sont mis. Et si on en croit les reportages, le sac banane séduit toutes les générations et tous les genres. C'est devenu le sac à main no gender pour hommes et femmes, nous dit un spécialiste. Alors attention, si comme Manu Le Chip, vous êtes sur le point de l'adopter,
il est à deux doigts là.
Évitez, et il faut éviter, Manu, le fashion faux pas. En 2023, la banane ne se porte surtout pas autour de la taille.
Mais non, Manu, c'est fini ça. Mais oui, la banane en bandoulière, évidemment, ça séduit quelqu'un là sur ce plateau.
Je n'ai jamais eu de banane, je n'en aurais jamais. Et là, je peux le dire pour une fois, non, c'était pas
mais
mieux
c'est
avant.
C'est très passé quand tu pars et tout. Par exemple, tu pars en voyage à l'étranger, tu as toujours ton argent, tu mets ça en dessous un pull.
Bah, dans ta poche.
Mais non, pas dans la poche avec tous les.
Non, je trouve ça immonde, c'est laid.
Puis
à un moment, tu te la fais piquer et tout ça, non
enfin, tu te la fais pas piquer parce que c'est ça sert justement à mettre ton argent.
C'est horrible.
J'ai jamais porté de banane. Karl Lagerfeld disait le jogging est une défaite de la mode. Je pense que la banane est aussi une défaite de la mode.
On se pratique.
C'est le symbole du plouc.
Ah d'accord,
la banane, c'est plouquissime. Alors je vais vous dire, parce que je suis dans le paradoxe aujourd'hui, je préfère la banane au sac à dos que je prends dans la gueule, dans le train, dans le métro.
Ah, c'est insupportable ça. Ah, ça m'énerve.
Alors une petite banane ici, tranquillement.
Enfin, un sac à dos, comment vous faites pour me mettre dans
ce
ordinateur?
Non mais je sais pas, mais les gens qui n'avaient rien du tout, surtout avec des sacs à dos, ils font
semblant d'être importés.
Ils sont là, voilà, claque. Comment? Oui, un porteur, un Sherpa. Non mais le sac à dos, c'est insupportable. Et la casquette. Alors la casquette de baseballeur, voyez. Non mais le béret, des chapeaux.
Un béret, un beau béret, les jeunes,
la France qui est là, la France qui vibre.
Enfin, le sac à dos, c'est très pratique.
Non, mais c'est ignoble.
Et la baguette,
c'est
un scandale.
C'est pas du
la baguette fraîche et non pas de chez Bridor. Non, mais voilà.
Les gens n'ont plus que des jeans, c'est terrible.